Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Bem-vindos, vamos estar consigo até muito perto das 23 horas, já sabe, para falarmos muito de futebol, da atualidade futebolística. Falaremos também de outras modalidades, e nomeadamente de basquetebol. Vamos ter na nossa companhia aqui em estúdio, já cá estão todos, já vamos apresentá-los, já vamos dizer olá a eles. O Olivier Feliz, empresário, o Mamadou Tumkara, jogador dos Chaves, e também o Reda Abdel Mohsin, jogador do Vila Real de Santo António, ex-jogador do Vila Real de Santo António. Ele também é um criador de conteúdos, é também, como se diz, um TikToker. Vamos falar com ele dentro de alguns instantes. De resto, o Reda vai ficar connosco durante as 2 horas. O Mamadou Tumkara, também o Olivier Feliz, vão estar connosco cerca de 1 hora e 15 minutos. Vamos então às apresentações. Para já, os da casa. Olá, Armindo, como é que estás?
Olá, Manuel, tudo bem? Boa noite a todos.
Boa viagem, sempre a andar, não é?
Hoje o condutor foi outro, não fui eu, por isso a viagem foi mais longa.
Ah, muito bem, muito
estou
bem.
A brincar.
Foi mais longa. Olá, Henrique, tudo bem? Ele estava a falar de ti, não era?
Boa noite a todos e a todos. E bom, foi uma viagem para ir e vir aqui na rádio. Será que vai voltar a casa?
Era.
Aí ainda não sei.
Boa tarde.
E ele portou-se bem, não é?
Vamos ver, tem que se portar e ainda tem 2 horas para se portar bem.
Isso. E temos connosco também o Marco Martins, que é jornalista da RFI, que está sempre connosco. Olá, Marco, boa noite.
Boa noite a todos.
Marco Martins, que é um apaixonado pelo Vianense, que agora está de férias, não é, Marco?
Então, claro que sim, até agora tem que se esperar para a próxima temporada. Tem muito interesse em subir na próxima temporada. Este ano não falha.
É isso. Agora vamos aos nossos convidados. Começamos pelo empresário de futebol. Está ligado, se não estou em erro, ao Vitória Sport Clube de Guimarães. Olivier Feliz, olá. Boa noite.
Olá, boa noite a todos. Sim, estou ligado ao Vitória de Guimarães.
Né? É um prazer estar aqui na nossa companhia.
Exato,
é a primeira vez que venho aqui à rádio ou não?
É a primeira vez.
É a primeira vez, é isso. Mas já tinha ouvido falar, já tinha ouvido
já,
um bocadinho.
Sim, escuto muito.
Sim, muito
segunda-feira,
bem.
Gosto.
Já ouvi dizer também que é ali um conhecido do Armindo, porque é por causa dele dizer Braga ou não?
Exatamente.
Porque foi ele que levou muitos jogadores para Braga, por isso.
Ah, muito bem, muito bem.
Mais tarde falamos quem são os jogadores que
muito bem, vamos sim, senhor. Vamos falar
e
disso.
Quer dizer que já ganhou muito dinheiro com o Braga.
E também ouvi uma entrevista onde estavas também ligado ao Paris Saint-Germain, já trabalhaste para eles um bocadinho
sim,
também?
Sim, 2 anos, com o Tero Henriques, que me levou para lá. Já quando ele veio do Futebol Clube do Porto como diretor desportivo para o PSG.
É isso.
E fizemos 2 bons anos.
Muito bem. Foram campeões, suponho, não é?
Sim, fomos sim. Campeões, só faltava a Liga dos Campeões.
É isso.
Mas comecemos, o PSG de agora foi também um trabalho que nós já comecemos, estruturamos muita coisa que não estava bem estruturada lá. Sobretudo o departamento de scouting, que não havia, sim. E a partir daí o Luís Campos chegou.
Lembrar que ele trabalhou com o Antero.
Sim. Exatamente. De resto, ele já prometeu que vamos ter o Antero em direto aqui também na rádio, não é, Luís?
O Antero é muito difícil.
Muito bem, Olivia, já vamos continuar a falar consigo. Aliás, você está convidado para intervir onde quiser e quando quiser. E não é obrigado a estar de acordo com toda a gente. O Mamadou Tumkara, ele é maliano, é internacional pelo Mali, fez os Jogos Olímpicos. Bom, as coisas não correram muito bem, mas ele está na nossa companhia. Agora é o jogador dos Chaves. Mamadou Tumkara, salut, bienvenue à Radio Alpha.
Salut, merci beaucoup.
Ça va? Ça va, Mamadou?
Olha, c'est
quoi cette petite voix là?
Non,
fala em português, que ele fala melhor
português. Je suis pas habitué.
Mamadou, en tous les cas, merci beaucoup d'être avec nous ici à Radio Alpha. Merci, on va donc passer 1h15 à peu près avec toi. Et on va passer les 2 heures avec Reda Abdel Mohsin. C'est comme ça qu'on dit ou pas, Reda?
C'est ça, Abdel Mohsin, exactement.
Ça va, tu parles portugais, toi, non?
Sim, agora eu falo português, eu falo muito bem.
Muito bem. O Abdel Mohsin era o jogador do Vila-Real de Santo António e foste para Portugal porquê, Abdel? Chegou assim a uma oportunidade?
Sim, uma oportunidade para o futebol.
Sim.
E também eu gosto do Portugal também.
Pois, estás ali no Algarve, também não é muito longe ali de Marrocos, não é? Porque tu nasceste em Marrocos, não é?
Sim, eu sou de Marrocos.
E, portanto, és franco-marroquino e agora também és um bocadinho português.
Sim.
Olha, Abdel, tu, para além de jogar futebol, também és criador de conteúdos, não é? Tu fais um petit peu tes trucs sur TikTok.
C'est ça, exactement.
Est-ce que t'as une chaîne YouTube ou pas?
J'ai pas de chaîne YouTube encore. Je diffuse tout sur mon TikTok.
D'accord. Non, c'était juste pour qu'on se mette des likes tous les deux.
Avec plaisir.
T'as qu'à faire ta TikTok aussi, sinon. Hein.
Non, non, j'ai pas TikTok. C'est que YouTube, ça me donne déjà, ça me prend déjà la tête. Bon, d'ailleurs, j'ai fait ma super grosse production ce week-end, donc elle est disponible.
Il fait sa petite pub, hein, ben oui.
C'est ça. Quelqu'un a d'autres choses, une chaîne? Non, personne. Très bien, donc on va commencer donc par le mondial des clubs. Je vais mettre un petit peu les spécialistes, Marco et Eric en train de parler de ça.
Je crois qu'il y en a pas mal des spécialistes autour
de la table. Oui, aussi, mais pour l'instant je veux vous entendre à vous, Marc et Eric. Não sei o que é que quer começar, mondial de clubes, 10-0, 4-0 Paris, Porto 0-0, Benfica joga hoje, à meia-noite. O que é que se pode dizer para já, Marco?
Non, laisse Eric commencer parce qu'il est content. C'est toujours le Paris Saint-Germain qui gagne, donc voilà, laisse-le commencer.
Là, je te dis, Eric, je prends les paroles de José Fidalgo, d'un commentateur portugais, qui dit que c'est une délice de voir ce Paris Saint-Germain jouer. Je concorde.
Si c'est les autres qui en parlent le mieux, je serais forcément d'accord. Parce que forcément, la petite côte parisienne ne va pas contredire tout ça. Non, mais après. Quand on voit actuellement le niveau du Paris Saint-Germain, forcément, on peut être que d'accord de dire que, en ce moment, oui, c'est ce qui se fait de mieux au niveau déjà européen. Ils l'ont prouvé par la Ligue des Champions. Et avoir maintenant cette continuité un peu malgré la chaleur, malgré le fait que ça soit à midi dans une compétition qui se veut être structurée, fondue. Enfin, tu vois, de voir que Paris Saint-Germain répond présent face à comme une opposition comme l'Atlético Madrid. À savoir maintenant, est-ce que l'Atlético Madrid était là vraiment juste pour jouer ou pour prendre un petit chèque avant de repenser aux vacances. Je ne sais pas, ça, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, voir ce niveau-là et voir notamment au Portugais brillar, comme ils sont en train de le faire, notamment au Vitinho, et puis voilà, et puis tellement au joueur neuf aussi, Nuno Mendes, ainda mais. Je
pensais que tu me parlais du Primo au final.
Non, non.
Et après, tu as aussi le Bayern qui donne.
Non, c'est différent. Attends, on ne va pas parler du Bayern parce que quand ils jouent au Auckland, tu sais qu'ils ont été obligés de prendre leurs vacances. Et donc même de se mettre à disposition pour kiffer entre guillemets, pour aller jouer cette compétition-là. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit nous jouer Benfica, le Boca et le Bayern, c'est Noël pour eux tous les jours. Donc ils ont dû prendre des vacances, ils ont dû mettre entre parenthèses des fois même leur boulot. Donc c'est autre chose. Donc parler d'un 10-0, ça ok, certains vont dire c'est ridicule, mais voilà, c'est du semi-pro ou semi-amateur. Selon comment on se positionne, mais donc c'est une équipe qui est présente, qui va faire sa petite compétition, sa petite vie, mais pour le Bayern, il n'y a rien, à en tirer comme leçon.
Un petit peu de Porto aussi, Porto Palmeiras.
Ça, c'était le match de la nuit. Pourtant, j'avais pris un malin plaisir. Après le 4-0, je me dis, allez, on continue, on va voir la nouvelle version de Porto. Déjà, j'ai vu Claudio Ramos avoir beaucoup de travail. Je me dis, attention, mais Palmeiras, c'est plutôt Palmeiras j'étais plus séduit par Palmeiras que par Porto. Et c'était un match accroché, mais bon, 0-0, voilà, c'est un peu triste. Hein. C'était un peu la même sensation que Inter Miami avec Al Ahly, mais bon, on va dire que c'est la mise en route de ces équipes-là, qu'elles étaient arrêtées plus longtemps déjà.
Moi, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eric nous parle d'une nouvelle version de Porto. Ça fait deux semaines qu'ils ont terminé le championnat. Il n'y a rien du tout de nouveau. Cette équipe n'a rien produit comme d'habitude. Ils essayent.
J'ai dit que j'attendais une nouvelle version.
Non, je croyais que c'était une nouvelle version. Ils ont rien montré hier. Il n'y a pas un tir qui soit vraiment dangereux, si ce n'est la triple occasion de Palmeiras devant le but de Claudio Ramos. Claudio Ramos qui montre quand même qu'il aurait pu avoir sa chance dans un autre club. C'est le problème de Porto, c'est qu'ils prennent tous les gardiens portugais et puis après ils en font rien. Ils en gardent un seul et les deux autres, ils restent sur le banc. On parle de Claudio Ramos qui était un très bon gardien et qui l'est toujours apparemment. Et Samuel Portugal qui vient du Portimonense si je me suis pas trompé et qui également lui fait encore plus banquette parce que lui c'est le troisième gardien. Donc lui on le verra peut-être, je sais pas, pour le mondial des minimes. Peut-être qu'ils le sortiront des cartons. Et là il joue d'ailleurs parce que Diogo Costa est blessé. Porto n'a pas montré grand-chose. J'espère quand même que Benfica montrera un peu plus, même si ce sera le même visage qu'on a eu sur ces dernières semaines. Il était plutôt bon le visage, hein, seulement battu par le Sporting. Et Boca, c'est pas forcément la meilleure équipe d'Amérique du Sud. Hein. Ceux qui gagnent tous les titres en Amérique du Sud, c'est n'importe quelle équipe qu'elle soit brésilienne. Il y en a quatre. Pourquoi il y en a quatre? La limite, c'est deux par pays. Mais comme les quatre derniers vainqueurs de la Libertadores, ce sont des Brésiliens. On parle de Fluminense qui est pas franchement la meilleure équipe. L'année dernière, ils ont failli descendre après avoir gagné la Libertadores. On a Flamengo, on a Botafogo. On ne sait pas très bien ce que ça va donner cette année, parce que ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'ils n'avaient pas été champions du Brésil. Et on a Palmeiras, qui est tout de même bien coaché. Faut le reconnaître, par Abel Ferreira, qui pour moi est devenu bien supérieur à Jorge Jesus, même si c'est le fantasme de Jorge Jesus avec Flamengo. Sur le Paris Saint-Germain, bah, c'est la continuité. Même s'il manquait Ousmane Dembélé, même s'il manquait Barcola, on se retrouve face à une équipe de l'Atlético. Et l'Atlético, c'est vraiment vilain. Hein. Leur centrale titulaire, c'est quand même Clément Lenglet. Hein. Et on l'a vu avec l'équipe de France. Et pourtant, il a été acheté par l'Atlético.
Allô, Clément.
Oui, bonjour, Clément.
Il y a un gars là qui me dit.
Il a été acheté pourquoi? Parce qu'il est arrivé pratiquement pour zéro. Barcelone voulait s'en débarrasser. L'Atlético a dit bon, bah, c'est un joueur à un bon prix, pourquoi pas. Bon, bah, on va le prendre. Donc, Clément, en plus, qui se fait, bah, tiens, expulsé hier soir. Et je suis pas aussi dithyrambique quand même que Eric, parce que le but, qui pour moi est valide, à 2-1, ça relance le match. Et là, je sais pas comment le Paris Saint-Germain aurait pu réagir devant un peu plus de ténacité de l'Atlético. Mais à 2-0, le troisième est arrivé assez rapidement. Et là, ils se sont complètement effondrés. Moi, je vois quand même les équipes les plus favorites arriver en demi-finale ou en quart de finale. Ça va être le Real qui s'est renforcé. Est-ce que les pièces vont fonctionner ou pas? Mais Huichen, je trouve que c'est peut-être le meilleur défenseur espagnol en ce moment. Alexander Arnold sur le côté droit, ça peut vraiment apporter un plus. Donc, je vois le Real, City qui s'est bien renforcé aussi avec Reinders au milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain, la continuité, et j'espère qu'ils vont récupérer quand même Barcola et Dembélé, parce que je pense qu'ils peuvent être importants. Et je dirais qui d'autre? Peut-être Liverpool, car Eric a raison, le 10-0 face à Auckland. Le Bayern qui a joué contre des personnes qui ont un emploi. Donc c'est comme si le Bayern jouait contre moi, Hermindo et Eric. Voilà, si je jouais contre nos trois, peut-être qu'on aurait peut-être perdu un peu moins parce qu'on se serait un peu plus défendu.
On aurait quand même
essayé d'aller chercher un but, le but de voilà, juste pour marquer un but et marquer leur histoire. Mais c'est le problème aussi de la Coupe du Monde des clubs, c'est qu'on va chercher des clubs qui sont complètement amateurs dans les ligues amatrices. Alali Inter, c'était peut-être le plus relevé des matchs, un peu plus équilibré entre les deux équipes. Mais bon, c'est la retraite du FC Barcelone d'un côté et Alali qui a loupé le penalty, parce que si il loupe pas le penalty, il remporte le match. Et Botafogo qui a gagné 2-1 face au Sounders, au Seattle Sounders. Je trouve que c'est une victoire assez courte face à une équipe américaine, mais malgré tout, Botafogo a gagné avec un autre entraîneur portugais, Renato Paiva. Donc on espère voir Benfica.
Et Arturo Cabral qui aussi fait ses débuts avec Botafogo.
Et tiens, il a marqué?
Non.
Comme avec Benfica, tiens.
Olivier, et tout. Este Mundial, tu veux la faire en français? Tu peux continuer, hein, on va continuer en français.
Moi je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent. Hein. Le PSG, il va être là, hein, parce que c'est la continuité. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Il leur manquait la Ligue des Champions pour qu'ils se fassent maintenant respecter, parce que les adversaires, maintenant, quand ils vont l'affronter, ils commencent à avoir peur d'eux. Donc, il va y avoir le Manchester City, le Real, Liverpool, je suis assez d'accord. Hein. Ils vont être là.
Le Bayern.
C'est pas la compétition de trop, là, dans une
et
saison.
Et le Bayern aussi. Mais Bayern, hier, 10-0, c'est un peu normal, parce qu'on aurait dit une équipe de district en face.
Olivier, donc, c'est pas là que vous allez chercher des joueurs, non?
Non.
C'est pas là que vous allez regarder les joueurs?
Non, pas du tout. Ça, c'est. Il faut déjà les clubs qui aient le portefeuille bien garni pour aller les chercher.
Par contre, si le Bayern joue au rugby face à Auckland, je pense qu'ils perdent.
Ouais. C'est ça. Ça, je suis presque sûr aussi.
Mais bon, c'est le démarrage. On va voir au fur et à mesure que la compétition va monter.
Bon, on va sentir les joueurs, la pulsation des joueurs. On commence par Tunkara. Toi qui es international, tu vois un peu ou pas? Ou tu profites un petit peu pour avoir des vacances?
Non, malheureusement, j'ai pas suivi les matchs là récemment. Avec la préparation que je fais l'après-midi, je suis un peu fatigué pour regarder les matchs. Et je suis très content du 4-0. J'ai vu qu'ils ont maîtrisé le match encore une fois. Et aussi Clément Lenglet. Malheureusement, je suis pas d'accord de comment il défend. Mais c'est un Français, je suis obligé de le défendre encore un petit peu. C'est tout, hein, franchement.
Il fait partie de tes références au niveau
du
poste?
Non, du tout.
L'Espagne aurait pu le prendre, hein, dans le packaging avec Romain Lenormand et Maman Claude.
Et Aymeric Laporte. C'est qui tes références?
Moi, c'est plus Konaté. Konaté ou Upamecano. Je suis plus de leur profil, quoi.
Des vrais défenseurs, quoi.
Arrête, il est méchant.
Par rapport à Mamadou, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'intéresse pas trop à cette compétition? Est-ce que c'est, comme Eric l'a dit, la compétition de trop? Ou c'est parce que c'est aux États-Unis, il y a un petit décalage, même si finalement les horaires ne sont pas trop mauvais pour nous, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne s'accroche pas encore à cette compétition?
Moi, je pense que c'est un peu des deux. Là, on est en fin de saison, les joueurs ils sont un peu fatigués. Et puis même, il y a pas mal de joueurs aussi qui sont déjà en vacances et c'est pas tout le monde qui est intéressé à cette compétition actuellement. Et franchement, je pense qu'ils auront pu faire mieux déjà sur les horaires. Et il y a pas mal de matchs l'après-midi, mais je pense que ça fait pas assez l'affaire.
Reda, et toi, le mondial, est-ce que tu suis un peu ou tu profites de tes vacances?
Non, j'ai suivi hier le Paris Saint-Germain, parce que je suis parisien. Mais franchement, c'est effrayant. C'est effrayant ce qu'ils proposent. En mettre 5 à l'Inter, puis 4 à l'Atlético Madrid, les défenses les plus solides au monde. Je vois pas d'équipe qui puisse arrêter le Paris Saint-Germain. Et pour rejoindre Mamadou par rapport à la Coupe du Monde des clubs, je le rejoins. C'est une période de vacances. Les affiches, à part celle d'hier avec Paris Saint-Germain, Atlético, c'est pas des affiches qui font forcément rêver, mais on dirait plus des matchs FIFA. On prend des équipes d'un autre continent contre un autre et on les fait affronter, et puis on voit ce que ça donne.
On disait un peu que c'était l'Europe contre l'Amérique du Sud.
Ça va être mon fil rouge, mais Reda, t'as quand même dit dans la même phrase défense solide et Clément Lenglet. Je crois qu'il y a quelque chose qui va pas dedans.
On peut pas blâmer la défense d'Atlético
Madrid. Clément, prépare-toi, hein, c'est ta soirée.
C'est la bonne combinaison, c'est la bonne stratégie pour la FIFA, je ne sais pas. C'est quoi ton opinion sur...
Je pense que oui, c'est...
Gagner un petit peu plus d'argent, allez, on profite.
Non, je pense que oui, c'est une petite compétition qui se rajoute.
Enfin, une petite... ça fait quand même presque un mois, oui. Du 15 au 13. Ouais. Hein.
32 équipes.
Surtout qu'après, il y a le championnat qui démarre.
C'est vrai que pour la santé mentale des joueurs qui n'ont pas de vacances, qui doivent enchaîner toutes ces matchs, toute la pression, enfin, plus parler des plus grosses équipes comme le Paris Saint-Germain, City, Bayern, etc. Mais oui, c'est embêtant pour les joueurs qui n'ont pas de vacances et qui ne peuvent pas profiter avec leur famille.
Enfin, quand tu parles des joueurs, je pense à les joueurs de haut niveau, parce que les joueurs de Lens, de Lille, ils sont en vacances.
Ils sont en vacances, oui, je parle de...
Donc c'est vraiment une caste, on va dire, qui creuse un fossé entre le top niveau et le reste. Après, c'est peut-être au reste aussi maintenant d'en profiter. Genre imagine, je pense à la Super Coupe d'Europe, Tottenham, qu'en ce moment ils sont en claquette. Ils disent, s'ils veulent focus, ils disent PSG, là, ils vont enchaîner.
Tottenham, ils ont été toute la saison en claquette.
Bah, à un moment donné, ils vont quand même se mettre à jouer, peut-être, à un moment donné.
Donc, là, je sais pas, quand ils finissent 17e de première ligue.
Parce que la Super Coupe, la finale, elle est le 13 août. Et si la finale est du 13 juillet, je vois pas comment, imagine si le PSG va au bout, comment il peut, en un mois, se dire, on refait des vacances pour faire une prépa, pour être prêt pour la Super Coupe. Moi, je suis pas préparateur physique, mais généralement, c'est limite, hein.
Mais c'est d'autres choses, je
blessure. Mais Benfica, c'est le 31, c'est à la fin de mois d'août.
Et puis Porto, je joue pas
c'est
la.
Surtout le risque de blessure. Hein. On va le payer au mois de novembre, mois de décembre. Hein. Là, on va voir les équipes qui seront les plus fraîches. Mmh. Hein. Parce qu'ils vont enchaîner pas mal de matchs. Hein.
Mas com esse dinheiro todo que os clubes ganham através desses jogos, mas achas que eles vão reforçar mais o plantel? Ou são obrigados a reforçar mais o plantel?
Ils sont déjà les joueurs. Ils sont bien déjà renforcés. C'est après. Mmh. Peut-être les équipes, tu sais, qui reprennent, qui n'ont pas fait ce championnat de monde de clubs, vont être plus frais après. Mmh. Parce que là, ils enchaînent match par match. Ils vont se retrouver. On parle de 50-60 matchs à l'année. Là, ils vont se retrouver 80 matchs à l'année, plus l'équipe nationale. Ça va être compliqué.
Comment éviter un flop? Tu parlais de la partie financière. La FIFA évite le flop en baissant les prix et en ayant déjà, en plus, ils prennent un risque, hein, parce qu'ils sont quand même aux États-Unis. Donc il y a déjà des dizaines et des dizaines de plaintes. Quand elles ont commencé à 360 €, les places les plus chères, qui sont passées à 60. Alors, tu me diras, ceux qui ont payé 360, ils sont pas du tout contents. Je sais pas pourquoi, avoir payé 300 de plus. Donc, il y a déjà beaucoup de procès. Donc, ça risque de coûter très cher à la FIFA. Parce qu'évidemment, tu vas pas juste demander les 300. Tu vas demander un dommage et un intérêt. En plus, aux États-Unis, s'il y a plusieurs personnes qui se mettent ensemble, ça peut coûter cher à la FIFA. Je ne sais pas quel va être le bilan financier de cette compétition. Donc on passe de 360 à 60 et les étudiants ne payaient que 4 dollars pour rentrer dans les stades. C'est pour ça qu'on passe des stades où on était à 20 000 personnes, on passe tout de suite à 60 000. Oui, pour 4 dollars, bon, bah, les gens, ils y vont, même qu'ils voient seulement 20 minutes, parce que c'est un peu ça, les Américains, c'est le show, hein. Donc, ils voient 20 minutes, oh, c'est bon, c'est
l'entrée
mignon,
des joueurs,
bon,
bah, je veux pas.
Voilà, ça. Oui, pour faire des photos, tiens, voilà, on a vu Messi sur l'Inter Miami, puis après, on rentre à la maison, on a payé que 4 dollars, on s'en fiche. Donc, c'est un peu particulier de l'avoir fait aux États-Unis, c'est très particulier.
Ontem, no jogo com o Paris Saint-Germain, por exemplo, quando entraram as equipes, a bancada estava vazia. Como por azar, o intervalo estava completamente cheio.
Là, tu dis ça, mais en même temps, le stade, il fait 92 000 places.
Même ça, il y a très grand le Rose Bowl.
Même s'il y avait 40 000 personnes, t'auras toujours l'impression de vide. Donc,
Mais après, ils sont venus après. Ils s'en fichent en fait.
Après,
c'est
oui,
un peu le
les
show.
Les aléas de. Bon, moi, j'ai jamais été à Los Angeles, mais forcément, je sais, c'est grand. Et pour y aller en voiture, tout le monde va en voiture, c'est compliqué. Mais donc voilà, il y a ce côté-là aussi qui n'est pas pratique pour aller dans des stades comme ça.
Les Américains, ils aiment le show. On le voit sur le Super Bowl, etc. Ils ne regardent pas les 4h30 comme nous. On est là devant notre écran, on regarde les 4h30 du Super Bowl, non. Eux, ils se baladent en fait pendant le match. Et puis, ils reviennent dans le stade, ils regardent, c'est quoi le résultat? Ah ok, bon, bah, je vais manger des pop-corns. Je vais... Donc, c'est un peu ça,
pizzas,
ils aiment
pizzas,
bouger.
Des hamburgers.
C'est ça, ils aiment bouger. Et le foot, okay. C'est pas trop ça. La culture en fait de bouger. Mais eux, c'est ça, ils aiment bouger. Ils n'aiment pas rester deux heures assis à regarder un match comme ça. En plus, un pauvre 0-0 comme Al Ahly Inter ou comme Palmeiras Porto. Au moins, avec Bayern, ceux qui ont payé, ils étaient contents. Ils ont dit, on s'en fout, contre qui c'est? On a vu 10 buts.
C'est ça.
Et nisto tudo, Olivier, onde é que se faz as compras? Como é que se faz?
À quel moment, oui.
À quel moment on va, ben là, on va acheter et vendre des joueurs?
Ben là, le mercato, il est déjà démarré. Mm-hmm. Donc jusqu'au 31 août.
Et là, vous avez jusqu'au 31 août, voilà.
C'est ça, 31, même voire début septembre, dans certains pays.
Bon, vous avez des infos sur Gyökeres ou pas?
Sur Gyökeres, c'est déjà qui va partir. Mm-hmm.
Mais Valandes, il veut pas, comme c'est le début, il veut encore forcer un petit peu.
Oui, il veut encore faire monter les enchères, mais il sera obligé de le vendre.
Est-ce que c'est pas de la com aussi pour les sociaux,
oui,
se dire, j'inquiétez pas, je vais être ferme et tout.
Mais donc, ça, Gyökeres, il restera pas au Sporting. Ça,
c'est sûr. Mais je vais pas où onde. C'est ça que j'aime savoir de savoir.
Ça.
Non.
Première ligue, tu
vois. Oui, c'est sûr.
Est-ce que n'est-ce pas un jour que ça est fait?
Je sais pas, qui paye?
C'est pas moi.
Il veut un club de Ligue des Champions.
On parle de
Manchester
United. Peut-être que Ruben Amorim vient venir le chercher.
Non, il a dit non. Son impresario. En tout cas, en début de mercato, il lui a déjà dit non. Parce qu'il n'y a aucune compétition européenne. Et lui, il veut aller jouer la Ligue des Champions.
Il veut jouer la Ligue des Champions, c'est ce qu'il avait dit. Après.
Ah bah, au 31 août, quand il sera toujours au Sporting, je pense que Ligue des Champions ou pas, il partira.
Il ira à Marseille.
Qu'est-ce que tu feras à Luis Campos, PSG?
Je pense pas que le PSG ira dessus.
Et quand tu vois un Osimhen l'année dernière, Osimhen il valait pas plus quand même que 70 millions.
Ouais, ils ont eu du mal.
Plus jeune, buteur déjà en Serie A, plus intéressant, et finalement il finit où? Prêté à Galatasaray. Et là il aurait un accord soi-disant avec Al Hilal pour partir en Arabie Saoudite. Donc les attaquants, c'est un marché qui est compliqué, surtout en ce moment, donner beaucoup d'argent. Arsenal a donné 55. Mmh. Et quand ça a été refusé, ils ont dit bon bah on va voir ailleurs.
Olivier, et au seu mercado, como é que é? Vous cherchez un petit peu en Ile-de-France ce qu'on peut ramener au Portugal?
En Ile-de-France, en province, partout.
Mais qu'avec le Portugal ou vous travaillez aussi un petit peu avec les autres équipes ici?
Non, on travaille aussi avec d'autres pays, à l'Espagne, à l'Allemagne, l'Angleterre, et ainsi de suite. Hein. Donc, plus pour le Portugal, évidemment.
Match pour Vitória,
non? Après, il n'y a pas que Vitória, parce que Vitória, ils avaient l'exclusivité sur moi jusqu'à il y a deux ans. Donc j'ai retiré, je travaille beaucoup en prestation pour Braga, pour Benfica, Sporting. Sporting c'est nouveau depuis le 1er novembre. Et donc on est là.
On s'en sort demande. On s'en sort ou pas?
Oui, ça va, ça va. Après c'est pas facile, c'est un métier qui est pas facile.
Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de monde, non?
Oui, il y a de la concurrence. Mais on essaye de traiter...
Vous avez un nom à nous donner ou pas? Comme ça, en première main, comme ça, sans que personne ne sache.
Pour l'instant, de toute façon, tout le monde le sait, on est en négociation avec Yanis Arocha, à Braga, pour renouveler son contrat.
Le petit Yanis qui était là.
Hein. Oui, Yanis, la semaine dernière. Donc je pense que d'ici un mois, ça va être réglé. Et on verra comment ça va se passer par la suite, parce qu'il y a un nouveau coach qui vient d'arriver. Donc on verra, en le renouvelant, Est-ce que Braga va...
Mais je vais pour l'équipe principale ou pour l'équipe B?
Bon, pour l'instant, c'est pas assuré parce que le nouveau coach arrive, c'est l'ancien adjoint de Guardiola.
Guardiola.
Il connaît pas, il va revoir les effectifs et après, on verra s'il va avec l'équipe 1 ou si on le renouvelle, on le prête.
Bah, attends, Mamadou, ferme les. T'es top, t'es... Je voulais poser la question, Olivier, justement. Est-ce que quand on, comme ça, on cherche, qu'on prospecte pour un joueur, est-ce qu'on s'adapte aussi en fonction de qui on a en face comme entraîneur? Pour avoir justement, ou, par rapport au club, justement, pour être sûr que le profil soit en adéquation avec le club?
Bon, après, tu sais, quand on est. On a la demande, par exemple, Guimarães ou Braga veulent un défenseur central ou un latéral gauche. Bah, moi, ce que je fais, je fais une shadow team où je propose 3-4 joueurs au poste, déjà avec le dossier bien monté, agent ou pas agent. Et donc à partir de là, c'est à eux d'y aller. S'ils y vont, ils y vont. S'ils y vont pas, c'est pas grave, hein, ils passent à autre chose. Donc généralement, les postes qu'on propose, ça, c'est ce que le club y recherche. Comme ça a été Mamadou Doumkara, comme ça a été Yanis Darocha, Jean-Baptiste Gorbi aussi, qui est à Braga, c'est déjà moi qui l'ai fait partir à 17 ans. Donc on connaît déjà ce que le club veut. Quel est le type de profil? On n'est pas là pour françaisiser le Portugal. Mmh. On est là, eux, ils viennent rechercher ce qu'ils n'ont pas là-bas.
Mais Olivier, toi, tu connais bien la région parisienne, donc
oui,
tu connais,
on connaît
le potentiel
région,
qu'il y a dans toutes les clubs.
Oui, un gros potentiel, ça c'est sûr. Et on essaye d'en profiter parce que il y a des clubs même dans la formation, que ça soit Rio Ave, Braga, Porto, Guimarães, Benfica. Bon, Benfica, on sait déjà ils vont chercher les meilleurs au niveau national, c'est eux. Après, il y a des clubs comme Obrac ou Guimarães, que eux, comme ils se font chipper les gamins par Benfica, bah, ils viennent sur l'étranger essayer de trouver ce que eux, ils n'ont pas trouvé au Portugal, qu'ils n'arrivent pas à aller dessus parce que Benfica et Porto ou Sporting, ils sont sur les gamins. Donc, on connaît déjà le type de profil qu'ils recherchent, que ce soit latéral gauche, que ce soit latéral droit, que ce soit un défenseur central. Eux, plus ils sont dans les recherches de défenseurs centraux, attaquants, et après, ils vont peut-être aller sur des latéraux, parce qu'eux, ils ont des latéraux qui vont vite, qui sont vifs et explosifs. Donc, après, ce qu'ils recherchent sur un latéral, c'est un latéral puissant, comme Nuno Mendes, parce qu'ils sont rares, hein, parce que Nuno Mendes, c'est une exception, hein. Il n'y en a pas beaucoup, en Portugal, des comme ça. Donc, c'est ce type de profil qu'ils recherchent, physique, qui défendent, et à la fois qu'ils soient rapides et durs sur l'homme.
Confia uma das melhores apostas que tu fizeste no futebol português? Um dos melhores jogadores que levasse que conseguiu dar o salto maior? Tenho um nome, mas posso ter outro.
Après, là, il y en a eu hein, qui sont passés au Portugal et qui sont, regardez, Mbala Nzola, je l'emmène à Académica de Coimbra. Je le fais signer là-bas. J'ai réussi à le faire signer parce que Académica, ils n'avaient pas l'argent pour payer les droits de formation. Je l'envoie à Sertanes pour nettoyer les droits de formation. Comme ça, Troyes ne touchait rien. Parce que Troyes avait bloqué. Donc, il part en Italie, là, il est à Lens. Tu vois. Et il y a eu Yassine Brahimi.
Brahimi, t'as une fois, je te vois.
Brahimi, ça a été. C'est moi qui déjà du temps du FC Porto, quand il était Rennes, en fin de contrat, en jeune, Porto aurait pu y aller. Mais après, il était encore trop vert. Pour eux, ils jugeaient qu'il était trop vert. Moi, pour moi, je jugeais qu'il pouvait jouer déjà en équipe B et que dans un an, il allait en équipe A. Ils ont attendu qu'il aille à Granada. Bamba, et là, ils ont payé Willy Bolli aussi.
Bamba, ton mego...
Ibrahima Bamba à Guimarães, tu vois. Il le fait partir à l'essai parce qu'il était sans club. Il a été vendu au Qatar.
Exactement. Niakite de Braga.
Niakite, que j'ai envoyé à 16 ans quand j'étais... parce que moi, j'ai été dirigeant à la CBB Boulogne-Billancourt. Donc ce gamin, il jouait pas en équipe 1 hein, de sa catégorie d'âge, il jouait en C. Et un jour, j'ai vu que le gamin avait de la qualité, je lui ai dit, écoute Sikou, si je peux te donner ta chance, je t'enverrai à l'essai au Portugal. Je l'ai mis là-bas 15 jours, qu'est-ce qu'il me fait le directeur du centre? À la fin de l'essai, c'est même lui qui l'emmène à l'aéroport, et il m'appelle, il me dit, Olivier. Et quand il m'a appuyé sur le prénom Olivier, je savais que c'était mauvais. Il me dit, monsieur Olivier, il ne faut pas m'envoyer des joueurs comme ça. Si coup jamais il joue en Ligue 1 du Portugal. Je lui ai dit, écoute, François, tu as ton œil, moi j'ai le mien. C'est pas parce qu'ils sont directeurs du centre ou scout qui... Toi aussi, tu peux avoir le même œil. Même un parent peut avoir le même œil. Il faut toujours être à l'écoute des gens. Donc je dis, marque l'heure et le jour qu'un jour Sikou jouera au Portugal, en Ligue 1. Le jour où il marque, le premier, il fait le premier match, il arrive à Braga, il joue contre le Sporting, il marque.
Espera, quantos anos depois?
Il avait 17 ans, 16 ans. Alors je te dis, ça faisait une dizaine d'années, hein, à peu près. Hein. 8-10 ans. Donc, j'étais sur la terrasse en train de m'amuser avec mon petit-fils et je vois François qui m'appelle au moins une dizaine de fois. Donc, je le rappelle, je lui dis, qu'est-ce qui se passe, monsieur François? Sikou vient de marquer. Je lui dis, tu sais, tu l'as eu entre les mains, maintenant c'est fini, qu'est-ce que tu veux? Sikou vient de marquer contre le Sporting. Je savais que, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit qu'il ne jouerait jamais en Ligue 1. Tu vois, comme quoi, l'histoire est belle. Hein.
Doigt dans l'œil.
Et ce gamin, il a tout son mérite, parce que c'est un garçon qui s'est accroché, et il a tout fait pour être au haut niveau. Hein.
Très bien, Olivier, on va parler un petit peu avec Mamadou Tunkara. On a du reste un petit message pour lui, tiens. On a un petit message pour Mamadou.
Ah bon?
On t'appelle Mama. Tu connais ou pas? Qui t'appelle Mama?
Ah, c'est plus à Guimarães qu'on m'appelle Mama.
Eric, qu'est-ce qu'on fait?
T'en as parlé, maintenant on l'envoie. Bah oui.
Ah oui,
non, on
dirait qu'il est fâché, mais... tiens.
Excusez-moi de vous couper. Il faut dire que Mamadou, c'est quelqu'un qui est arrivé à Guimarães, qui s'est très bien intégré, que ce soit Chavez ou Guimarães, il est apprécié par tout le monde, par le staff. C'est quelqu'un qui est respectueux, qui est un gros bosseur.
Ça va, Mamadou?
Oui, ça va.
Et je pense...
Là, tu prends bien le truc. Hein.
Il veut te vendre, lui.
Non, c'est pas pour lui faire des éloges, c'est qu'il s'est intégré. Des au bout de 6 mois, il commençait déjà à parler portugais. Et je suis fier de lui.
Bon,
j'espère qu'il aille là-haut au plus haut niveau.
Bon, Mama, je peux t'appeler Mama aussi?
Oui, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème? J'ai un message de notre Mama. De quelqu'un que tu connais bien qui voulait te revoir. Peut-être. On y va?
Vas-y, Brian.
On balance. Écoute bien.
Un petit message, beaucoup de souvenirs avec Mam. C'est lors de ma première saison à la GIA Drancy, donc 2019-2020, National 2. Moi qui suis très proche des jeunes joueurs du club, donc je m'intéressais aux U19 nationaux, et cette génération 2001 avait de très bons joueurs, dont Mam était un des leaders défensifs, donc déjà grand par sa taille. Et je l'avais invité plusieurs fois à venir s'entraîner avec la National 2, et je crois de mémoire qu'il a dû faire un ou deux matchs avec moi. Ensuite, effectivement, je sais qu'il est parti au Portugal et je lui ai dit, écoute, joue ta carte à fond, prends ta chance. Hein, si en France, les gars ne se réveillent pas, toi, au moins, tu vas avoir cette opportunité. Après, la gâche pas. Mais je sentais déjà à travers lui un potentiel d'un grand défenseur qui, malgré sa taille, n'avait pas les pieds tordus. Hein, donc, j'avais vu aussi très bon jeu de tête et belle relance. Donc, moi, ça me fait toujours plaisir de voir des anciens joueurs réussir dans un autre championnat, hein, malgré que j'aurais aimé qu'il ait sa chance en France. Mais bon, la vie en a décidé. Et puis, je trouve que de vivre du football dans un pays comme le Portugal, avec ce qu'on voit comme qualité de joueur, qu'il ait su s'imposer en partant à Guimarães et puis maintenant à Chavez, je lui tire un grand coup de chapeau. Et ça me fait vraiment très plaisir, parce que de cette génération-là, 2001, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de bons joueurs qui ont fait des belles carrières, ou qui font des belles carrières, puisqu'il est tout jeune encore. Donc, plein de bonnes choses à toi, Mam, et au plaisir un jour de se recroiser. Voilà, merci à vous.
Alors, qui c'est?
Monsieur Philippe Lemaître.
C'est ça.
Yes.
C'est Lemaître.
Monsieur Lemaître.
Ouais.
Ça va, il a tout bien parlé?
Ouais, il a bien résumé un peu ma carrière aussi. En U19, à Drancy, comment ça s'est passé. J'ai fait une année avec lui. Je pense que c'était une année compliquée aussi pour nous. Le groupe l'était bien, mais en championnat, c'était compliqué. Mais je suis ravi de l'avoir rencontré, en tout cas.
Mais justement, à quel moment ça s'est goupillé?
Comment
déjà, à un moment donné, tu t'es dit, je vais en faire ma carrière, en tout cas, parce que déjà, on sait qu'il y a un bon niveau chez les jeunes à Drancy.
Oui, il y a un très bon niveau. Mais moi, au début, franchement, je prenais du plaisir. Avec le groupe qu'on avait pendant au moins 2-3 années, ça suivait. Depuis 17, puis 19, on a fait deux grosses années en 19. Et après, j'étais dans le groupe avec M. Philippe Lemaître. Et c'est comme ça s'est fini. Et j'ai rencontré M. Olivier. Et c'est là où mon aventure elle a pris au Portugal.
Et à quel moment tu t'es décidé, enfin on a réussi à te faire dire, ok, on va au Portugal,
oui.
Tu tentes ta chance et tu as dit, ok, je vous suis.
Qui ça?
Toi, comment t'as eu le déclic? Tu dis ok, je prends le pari, je vais au Portugal pour tenter ma chance.
Franchement, j'ai beaucoup réfléchi quand même.
Est-ce que tes parents t'ont dit non, tu vas pas, maman? Tu restes à la côté de maman.
on en a tous en parlé, on en a parlé en famille, c'était compliqué, il y avait l'école aussi, parce que j'allais aussi à l'école, mais par la suite, le soir, je continuais au foot. C'était un peu compliqué, mais c'était plus par la passion aussi que j'ai continué. Et après, en famille, on en a parlé, on a vu que c'était un bon projet pour moi. Et pourquoi pas aller tenter ma chance là-bas. Et ça s'est très bien passé pour l'instant. Et j'espère que ça va continuer.
Qu'est-ce que tu connaissais du Portugal avant d'y être?
Franchement, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose.
Ronaldo?
La base.
Allez.
La base.
Voilà, tu connais, non?
La base, bien sûr.
Ouais.
Et donc après le Portugal, c'est tout de suite, t'as eu quoi? T'as un coup de cœur en arrivant là-bas? Tu t'es dit, ça sent le football?
Oui, bien sûr. C'est là-bas, c'est l'école de foot. C'est tout le monde, hein, tout le monde est concentré. Il y a l'école, il y a le foot. Mais c'est comme on dit là-bas, junto au Victoria. Et c'est là-bas où j'ai vraiment eu l'amour du Portugal, parce que ils m'ont très très bien accueilli, malgré que c'était très très difficile au début. La culture, tout avait changé pour moi, mais j'ai su m'imposer sur le terrain, comme en dehors du terrain, parce qu'il faut avoir un peu de personnalité quand même pour s'imposer et gagner sa place. Parce que quand je suis arrivé en U23.
C'est ça.
En U23, j'ai fait pas mal de matchs, j'ai fait à peu près la demi-saison, puis je suis parti avec l'équipe B. L'équipe B, j'ai fini la saison avec eux, qui s'est très très bien passé. On a fait une montée, si je me rappelle bien. Et par la suite, on a continué en Liga 3. Je suis monté avec l'équipe professionnelle. Hein. Et franchement, j'ai pris que du plaisir.
Et t'aurais cru justement arriver à jouer déjà des matchs en pro, ensuite jouer des matchs en championnat du Portugal et même de la Coupe d'Europe?
Oui. Je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas parce que le foot, ça va très très vite. Mais j'ai toujours su qu'un jour j'y arriverais et que ça pouvait se passer aujourd'hui comme demain. Ça s'est fait. Et à ce moment-là, faut être prêt mentalement, parce que en étant jeune comme ça et s'imposer dans une très belle équipe comme ça, faut avoir une grosse personnalité, parce que j'ai un peu un poste aussi qui demande de la responsabilité. Et faut être prêt en tout cas. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant.
Et ça t'a aidé quand même d'avoir des francophones aussi, parce qu'il y en avait pas mal?
Oui, ça m'a beaucoup aidé. Hein, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'au début, on était un peu tous ensemble pour comprendre un peu comment ça marche, comment aller un peu la culture portugaise. Et en étant jeune, avec les jeunes, on faisait des petites activités pour apprendre un peu le portugais. Et franchement, ça s'est très bien passé.
En plus, t'es dans Guimarães, c'est... Além de l'histoire, étant le berceau du Portugal, c'est une terre de passionnés, parce que les supporters de Guimarães, ils sont pour Guimarães. Ils sont pas pour un autre club. Donc des fois, quand tu vas dans les autres villes, quoi.
À Braga, par exemple.
Ils sont souvent de Benfica, du Sporting ou du Porto. Alors que Guimarães, non. Ils sont que de Guimarães.
C'est pas pareil, Braga.
Mais oui, ils sont que pour Guimarães. Et c'est aussi ça, le club. L'amour des supporters qu'ils ont envers le club. Et c'est une grosse différence, parce que partout où on part, les supporters, ils sont là, ils nous suivent. Et ça fait plaisir quand même de voir les supporters partout où on part, que ce soit le Gard, Faro, dans le Nord, dans le Sud. Ils sont toujours là à nous supporter. Et surtout dans le derby contre Braga, on les entend beaucoup, mais...
Mais ils on gagne jamais, c'est ça.
On gagne toujours. Et on va continuer à gagner.
Bon, maman, on revient tout de suite. On a une petite page de pub. On arrive tout de suite.
Tribune Desportiva.
Tribuna Desportiva consigo até muito perto das 23, 21 horas 44 minutos. Lembramos que temos em estúdio o empresário de futebol Olivier Feliz, temos o Mamtunka, jogador do Vitória dos Chaves, e também o Reda Abdel Mohsin, que vamos falar com ele um bocadinho mais tarde nesta emissão. Ça va, Reda? Tu te sens bien?
Ça va super.
Non, mais dis-moi une chose.
Tu fais tes trucs là, ce qu'il faut pour ton TikTok là, parce que je veux qu'on soit tous présents.
Ne t'inquiète pas, tout sera géré, tout sera
d'accord,
géré.
D'accord.
Et t'oublies pas le YouTube de Manu.
je vais mettre ça aussi dans.
Ça c'est magnifique. Je te remercie. Reda Abdel Mohsin, que é também criador de conteúdo e que tem uma página no TikTok. Bom, je croyais que tu en avais plus, c'est vrai. 17 000, c'est ça?
C'est ça, bientôt 18.
D'accord. Mais là, ton objectif, c'est quoi? Tu vises quoi, les millions?
Non, millions d'abonnés.
Bah, pourquoi pas?
Pourquoi pas, un jour? Un jour, c'est vrai.
Tu arrêteras le foot. Non, je rigole. Reda, on parle. Tu es bienvenu. Tu peux parler. Tu peux poser des questions à Reda.
Non, une chose que je ne dissais, c'est qu'il était à camisole de Portugal.
De Portugal, exactement. Portugal, tiens, je vais te mettre un défi là en direct. Tu vas poser une question à Mam, s'il te plaît.
En portugais ou en français?
Oh, comme tu veux. Allez.
Quel a été le plus grand joueur avec lequel tu as joué?
Eh ben voilà.
Thiago Silva, de Torre.
Ok.
Et plus grand adversaire.
J'ai joué avec lui au Victoria. Oui, oui, Thiago Silva.
Thiago Silva, mais non, mais estamos a pensar. Thiago Silva
não, c'est pas le
brasilien. Non, Thiago Silva do Victor.
Não, mais comme il vai jouer à Braga, il ne connaît pas.
Não é o caso, não estou a falar por mim, estou a falar por as pessoas que estão a ver.
Je recrute que c'était Jota.
Ouais, moi aussi.
C'est des profils différents. Je suis plus.
T'avais un peu peur, hein, vas-y, Mam, dis-le. T'avais un peu peur de Diogo Jota. Hein. Non, je veux pas lui.
Non, pas Diogo Jota.
Jota Silva.
Jota Silva, c'est ça. Jota Silva, c'est
ça. Il y en a eu plein. Et Bruno Varela, non, il était.
Bon, en même temps, il fait plus peur à personne, Tingam.
Si, il est toujours là, Faut lui laisser sa chance. Comme ça, c'est fou.
Oui, mais il joue quand même avec le niveau supérieur de Bruno Varela. Parce que le titulaire de la sélection capverdienne, c'est pas Bruno Varela.
T'as eu quoi?
C'est Vozinho. Ça impressionne des gardiens ou des joueurs qui vont comme ça aussi loin dans une carrière. Parce qu'il a déjà 37 ou 38, il a signé à nouveau un contrat.
Mais il a prolongé là à Chavez. Il a une grosse carrière. Et c'est quelqu'un de très expérimenté aussi. Il nous conseille et tout, et franchement ça fait plaisir aussi d'avoir des gens qui ont vécu plusieurs situations dans leur carrière. Ils peuvent nous conseiller sur le professionnalisme là-bas et tout, et je m'entends très très bien avec lui en plus.
Mais des carrières comme Vozinho, Cristiano Ronaldo, est-ce que ça fait rêver ou est-ce que ça fait peur de se dire bon, on a encore 17 ans à tirer?
Ça fait un peu peur, mais on aime ça. On aime ça, ça veut dire qu'on va se donner les moyens pour aller le plus loin possible. Et c'est comme ça, on verra bien jusqu'où on peut aller.
Ah ouais, j'ai une question qui peut être la plus basique au monde, mais comment on en vient au football? Alors, en région parisienne, c'est vrai qu'il y a le foot, mais il y a beaucoup d'autres sports. Est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce qu'il y a eu d'autres sports que tu as pratiqués?
Non, moi j'ai toujours joué au football, depuis que je suis gamin, parce que j'ai grandi dans un quartier aussi où on joue tous les jours au football. Et même aujourd'hui, quand je rentre, ça m'arrive de faire quelques petits foot entre amis, sans trop appuyer aussi, parce que c'est devenu mon travail aussi. Mais c'est devenu l'amour qu'on a au quartier, de jouer tous ensemble. Et c'est comme ça que j'ai pris du plaisir. Et aujourd'hui, je suis là à continuer à faire mon travail.
À quel moment on se dit on peut être professionnel? C'est quand on rencontre Olivier ou c'est un peu avant ou c'est un peu après?
Il y a aussi une grosse partie d'Olivier, parce que ça a été un peu mon switch, comme on peut dire. Parce que j'ai commencé avec Drancy, et je suis parti à Guimarães, mais ça s'est fait avec Monsieur Olivier. Et je peux pas l'oublier, parce que c'était mon premier contrat professionnel aussi. Ça veut dire que je suis un peu reconnaissant envers lui, et j'espère qu'on continuera encore ensemble.
Et surtout que Mamadou... D'habitude, ce type de profil, dernière année, 19 ans, beaucoup de clubs font partir à l'essai. Et lui, ça a été une proposition directe. Chose rare.
Quand j'ai vu la première fois Mamadou, j'ai dit, au bout de 10 minutes, j'ai dit, c'est même pas la peine que je vienne le voir tout le temps. Parce que je savais que c'était le type de profil que les clubs portugais recherchent. Tu vois. J'ai dit, mais c'est quoi, este monstre? C'est qui ça? J'ai dit, c'est pas possible. Comment il est encore là? Donc, c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure avec Carlos Freitas.
Oui.
On a monté un département scouting Vitória France. C'était très carré parce que Carlos Freitas est quand même un monstre du football mondial.
Il était à l'altitude de Guimarães.
Oui.
Mais avant, il passait par le Braga.
C'est ça.
Et dit, par le Sporting, par Metz.
Le Sporting, c'est lui qui fait monter ce noyau quand il était directeur sportif, Quaresma, Cristiano, en équipant avec Laszlo Bologna.
Ah, dommage, il n'y avait pas de Cristiano Ronaldo à Braga.
Ah, si.
Et pour parler à Quaresma, tu t'es entraîné avec lui.
Oui, oui.
Qu'est-ce que ça t'a fait d'être en face de lui? Parce que c'est tout ce que Cristiano Ronaldo à l'époque n'avait pas, c'est il a appris avec Quaresma, Cristiano Ronaldo.
Oui. Tout ce qu'il avait en achetant era salario.
Non. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir ce monstre? Parce que c'est quand même un monstre, Quaresma.
Franchement, moi-même, je ne réalisais pas qu'il était devant moi. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a une grosse carrière, avec des grosses qualités aussi. J'ai été vraiment choqué par sa qualité technique et surtout son extérieur qu'on connaît tous.
Ouais.
Et franchement, même...
D'ailleurs, tu lui as piqué maintenant, c'est bon.
Il y a son fils maintenant que Jean, il paraît que c'est pareil que le père.
Ah, je pense pas.
15 ans.
Je le connais pas, franchement.
Son fils, il a marqué ce week-end.
Je le connais pas, ouais. Bon, en tout cas, quoi reste.
Dans l'équipe de Sporting.
D'après ce que j'ai vu, c'est quelqu'un de qui est très gentil aussi, qui nous a bien accueillis, les jeunes. Moi aussi, j'étais choqué qu'il nous avait un peu bien accueillis. Et je pense pas le revoir plus tard, mais c'était un plaisir en tout cas.
Eh ben il est là. Allez.
Et pourquoi partir de Guimarães pour Chavez?
Bon, après ça, c'est plus
c'est
le côté
faute.
Non, du tout. C'est plus le côté football. Sur ma dernière année au Portugal, au Victoria, c'était compliqué. Avec les changements de coach et tout, j'ai pas su avoir ma chance avec les trois coachs parce qu'en une année, j'ai changé trois coachs.
Et t'as travaillé avec au Rivage, non?
Non, malheureusement, non. Malheureusement, non. Si, quand je suis arrivé des Jeux Olympiques, il était là, mais ça s'est fait rapidement. Une semaine, je suis parti à Chavez.
Après, c'était plus politique.
Donc, à Chavez, t'as fait 7 matchs, si je me trompe pas.
Oui, cette année, c'était aussi un peu compliqué. À mon arrivée des Jeux Olympiques, je suis arrivé à la dernière semaine du Mercato avec un nouveau groupe et c'était un peu compliqué de l'accueil un peu là-bas. C'était un peu difficile de changer d'univers comme Guimarães, c'est une belle ville, c'est...
Oui, t'es à côté de la mer.
Ouais, voilà, c'est ça.
Chavez, à côté de la mer,
pas très loin,
quelques kilomètres. Hein. Oui, bon, après, c'est vrai qu'il est parti à travers le monde. Là, la mer, tu la vois vraiment de très, très loin. Hein.
Après, pour parler de Guimarães, mais en connaissant de l'extérieur, parce que je ne connais pas à 100% le club, hein. Moi, je travaille d'ici pour eux. Maintenant, on a arrêté.
Parce qu'il y a une représentation en France aussi.
On a arrêté le projet département scouting France, parce que depuis que Carlos Freitas est parti, ça a changé de président, parce que le président Lisboa maintenant, il est à Tondela.
Non, mais en fait, à chaque élection, ça change. Voilà. À Guimarães, c'est le problème.
Et ça a été compliqué parce qu'il y a eu ce changement. Il y a eu aussi le coach Moreno qui a fait très confiance. C'est Moreno qui le lance, hein, Moreno qui l'a suivi, qui était coach de la B, qui a été coach des U23, qui l'a emmené en Ligue 1. Donc c'est ce fameux match que vous perdez en UEFA. Moreno qui se fait virer, ça a changé de coach, le Brésilien qui arrive.
Il fait pas chaves.
Hein?
Moreno fait très bien chaves.
Et c'est là que les deux coachs qui sont arrivés après, Pacheco et tout ça, ils lui ont plus fait confiance. Tu vois, c'était plus politique que sportif. Donc là, l'année dernière, il y a eu Chavez qui sont manifestés. Bon, moi, j'ai pris la voiture, je suis allé directement à Guimarães, hein, voir Jean Numaté, j'en ai résilié le contrat parce qu'il ne pouvait plus rester une année Et même, il n'était pas viré. Il voulait le garder. Sauf que c'était pas possible qu'il refasse une année en B.
Mais oui, c'était ça aussi.
Donc.
Mais toi, en fait, tu comprends un peu ce qui se joue en ce moment avec le Mondial des clubs. C'est-à-dire, le fait de la saison s'est terminée, t'es parti en concentration avec le Mali, t'as joué les Jeux Olympiques, donc t'arrives aussi tard. T'as senti cette entre guillemets fatigue après toute cette préparation longue, puis le tournoi, puis avoir quelques jours de vacances et reprendre tout de suite derrière.
Oui, quand même, je l'ai beaucoup senti ça, parce que on a quand même une petite semaine de récup, mais c'est pas assez. Franchement, c'est pas assez parce que juste après, on continue sur la préparation pour la saison. Et franchement, des fois, le corps il suit pas et c'est des risques de blessures aussi.
Et comment ça s'est passé? Enfin, moi, juste la parenthèse JO. Je pense que, bon, on va pas dire que c'est à cause des JO, mais justement, c'était.
Tu veux la musique? T'as pas la musique des JO?
Non, mais j'imagine, ça va être incroyable pour toi de te dire, j'ai joué les JO. En plus, on peut dire chez toi, parce que c'était JO de Paris. Donc, ça devait être exceptionnel, quoi.
Oui, c'était exceptionnel. En plus, on était dans le même bâtiment des vainqueurs, l'Espagne. Le soir, on parlait avec eux, avec les coparsis, ceux qui ont gagné. Et moi-même, j'étais un peu choqué au final comment on était là avec eux. Et une semaine après, ils sont dans des gros clubs comme le Barcelone et l'Atlético et tout. Ça a été une grosse expérience pour nous et on a pris que du plaisir.
T'as réussi à avoir des places?
Pour la famille quand même, non?
Oui, bien sûr.
Le tournoi de football était pas plein, on est d'accord, ou on voit quand même quelques places un peu vides?
Oui, c'était un peu vide, mais ça, on peut pas le contrôler. Nous, on est sur le terrain, on essaie de faire le maximum pour leur faire plaisir.
Qu'est-ce qui aura manqué à cette équipe du Mali? La question la plus dure.
Après, c'est un groupe. Franchement, on a essayé de donner notre maximum sur le terrain. Ça n'a pas été facile. On a perdu des matchs un peu durs aussi. Franchement, depuis le premier match, fallait qu'on s'impose. Et par derrière, on n'a pas suivi.
C'était compliqué d'être favori. Parce que franchement, dans le groupe, vous étiez favori. Face au Paraguay, Japon, Israël, le Mali était favori.
Pour moi, oui, on était favori parce que j'avais entièrement confiance en mon équipe. Mais malheureusement, sur le terrain, on ne peut pas contrôler ce qui se passe. Et on a perdu des matchs contre le Paraguay qui nous a fait très très mal. Et juste après ça, on est rentré, mais on aurait bien voulu continuer l'aventure. Parce que c'est une grosse compétition quand même où on prend du plaisir.
Dans 6 mois à peu près, il y a la CAN. et je sens qu'en plus avec Reda, vous n'allez pas du tout vous entendre. Hein, parce que le Mali est dans le groupe du Maroc, de la Zambie et des Comores.
Ah bon?
Donc, est-ce que c'est un objectif, justement?
Oui, bien sûr. J'ai quand même l'amour du peuple du Mali. J'aurais bien aimé faire quelques matchs de préparation avec eux. Mais je pense que par la suite, on verra bien comment ça va se passer. Et je suis toujours prêt, en tout cas.
La gagner avec le Mali?
J'espère bien.
Parce que j'ai un trou, là. Je ne sais même pas si le Mali, ils sont déjà gagnés.
Non, pas encore.
Non, mais bon.
Bah voilà, sur la génération Mamadou Tounkara, pour gagner avec le Mali. C'est un beau slogan, ça.
Ouais, c'est pas mal.
Bon, ça passera déjà par le club, donc les prochaines, c'est... enchaîner. Maintenant, là, tu passes dans un cycle plus logique de préparation pour entamer cette saison comme il se doit.
Oui, c'est pour ça que j'ai déjà commencé ma préparation et je mets toutes les chances de mon côté pour rentrer en club, être titulaire et enchaîner les matchs.
Très bien, Mamadou. On va vous garder un petit peu encore. On va juste faire une petite pause. Là, on va vous libérer, 2-3 minutes. Vamos passar para as notícias dentro de alguns instantes. Depois vamos continuar a conversar mais 10 minutinhos com o Mamadou. Vamos falar um bocadinho do futuro, e também um bocadinho com o Olivier, Feliz. Depois continuaremos a nossa conversa com o Reda Abdelmoussin, que está na nossa companhia, foi jogador do Vila Real Santo António também, TikToker, é também criador de conteúdo. Fique na nossa companhia, já voltamos.
Tribuna Desportiva.